Bonjour chers auditeurs de Radio Grenouille et bienvenue sur les ondes du 88.8 à Marseille et aussi où que vous soyez sur la planète via internet sur radiogrenouille.com. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir une actrice française qui a traversé près de 40 ans de cinéma, mais surtout la présidente d'Art en Œuvre, l'association qui organise et met en espace dans les jardins aixois la 5e édition des flâneries d'art contemporain. Bonjour Andrea Ferréol et merci de nous accorder cette interview en préambule de cette manifestation artistique originale qui rassemble depuis 5 ans des œuvres d'artistes d'univers très différents dans de magnifiques jardins privés datant du XVIIIe siècle dont certains, j'ai entendu dire, s'ouvriront au public pour la première fois. Et cette manifestation aura lieu les 18 et 19 juin.
Bonjour. Eh bien oui, comme chaque année, j'ouvre des jardins privés. Cette année, il y a 7 lieux, parce qu'il n'y a pas que des jardins privés. Il y a une cour d'un hôtel particulier tout refait, absolument extraordinaire. Dans cette cour, il y aura des sculptures et de la danse. C'est-à-dire, le Ballet National de Marseille viendra danser à Aix-en-Provence le samedi à 17h, 18h et 19h.
Vous êtes à l'origine, en fait, de ce projet. D'où a jailli cette idée généreuse, on peut dire, flânerie.
C'est une idée folle, c'est une idée culottée, c'est une idée absolument hallucinante. Un jour, dans ma tête, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, ouvrons des jardins privés, demandons aux gens d'avoir la gentillesse d'occuper leur sol. Faisons la découverte du patrimoine privé. Ils ont marché. Ils marchent chaque année. Pas tous, malheureusement. Il y a des gens qui me refusent leur jardin. C'est dommage parce que généralement ce sont des jardins très secrets et extraordinaires qui existent dans le plein centre d'Aix-en-Provence. Et donc j'ai mis de l'art, j'ai commencé petitement et chaque année ça devient un peu plus important. Cette année, 23 ou 24 artistes, 7 lieux et des jardins dont 2 qui vont s'ouvrir totalement pour la première fois, qui sont très secrets et très cachés.
Et le public vous suit apparemment, puisqu'il y a plus de 45 000 visiteurs qui se sont présentés dans ces jardins.
C'est la folie. L'an dernier, il y avait la queue devant tous les jardins. Écoutez, l'entrée est gratuite pour tous. Ils viennent découvrir de l'art, c'est-à-dire que l'art est mis à la portée de tout le monde, des plus grands comme des plus petits. Il y a des choses totalement différentes pour tous les goûts. Et l'entrée est gratuite, comme j'ai dit. Le musée est à leur portée, ils ont des barres à eau dans les jardins, ils ont même parfois des choses, des petits cadeaux. Il y a un musicien par jardin qui les charme durant toute leur flânerie. Cette année, comme je disais, il y a le ballet de Marseille, il y a le ballet Muret Broche de Montpellier. Il y a Didier Sandre, très grand comédien, qui va dire un texte d'Antonin Artaud sur Van Gogh. Et un texte d'Aragon sur Picasso. Et puis, Joël Garde, qui habite à Cassis, pas loin de chez nous, qui est professeur à la Sorbonne, a écrit pour Frédéric Tirmont et moi-même un texte sur les jardins entrelacés de poésie magnifique. Donc, ça aussi, c'est un autre temps fort. Il y a une chanteuse d'opéra du Festival d'Aix-en-Provence, Anna Stéphanie, que vous pourrez entendre cette année, d'ailleurs, dans la Clémence de Titus. Et puis, il y a une jazzman, une jazzwoman que tout le monde nous envie, qui va à New York et qui chante là-bas, et qui est aixoise, et qui est Anne-Cécile McLaurin Salvant. Voilà, tout ça, ce sont des petites vignettes, je dirais, pour accompagner les flâneurs, pour qu'ils leur permettent de s'asseoir, de prendre le temps d'écouter, d'entendre, d'apprécier, de se reposer et de repartir vers un autre jardin pour recommencer le plaisir. Car nous sommes à une époque totalement folle.
Justement, oui, on sent votre passion déjà pour l'art en général, pour la peinture en particulier. En fait, quand vous étiez jeune, vous vouliez peindre. Vous avez pris des cours au Beaux-Arts.
J'étais au Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Mais très vite, j'ai compris que devant une toile blanche, j'étais absolument nulle. Et je trouvais quand même plus facile de dire le texte d'autres personnes. Donc c'est comme ça que je suis devenue comédienne.
Et cet amour pour l'art, justement, est-ce que il vient d'où ? Il vient de votre famille, de votre région, de votre ville ?
Il vient de beaucoup de choses. D'abord les Beaux-Arts, et puis quand on est à Aix-en-Provence, c'est une des villes les plus belles de France, on est au milieu de la beauté. On n'a que se promener. comme je vais le faire dans une heure. Et vous allez de place en place, les immeubles sont tous plus beaux que les autres, la couleur de la pierre est magnifique, c'est un enchantement, il suffit de savoir voir, regarder, apprécier, et là, vous êtes au milieu de la beauté. C'est comme ça que j'ai découvert l'art, et puis les beaux-arts, et puis mon goût pour les musées, mon goût pour la peinture, mon goût pour des peintres, voilà, que j'ai...
Justement, vous parliez de Gauguin au départ, qui vous a émerveillé.
Gauguin, Cézanne, et puis moi, Picasso, c'est pour moi...
Le maître.
Un immense maître, mais il y en a tellement. Balthus, c'est juste somptueux. Enfin bon, et il y en a beaucoup, quoi. Et puis, j'invite des artistes que j'aime.
C'est ça, sur coup de cœur, en fait.
Coup de cœur, coup de... Oui, c'est plus que des coups de cœur. D'abord, nous nous réunissons, mais si vous voulez, des gens où tout d'un coup, il y a un talent évident. Cette année, il y a Antonio Segui, qui est un peintre, il y a Antonio Saint-Sylvestre qui fait des sculptures hallucinantes, des choses complètement déjantées que les gens vont découvrir parce qu'il expose dans tous les musées mais il n'est pas connu à Aix. Et puis des gens plus jeunes méconnus mais qui ont beaucoup de talent. Et cette année c'est l'ouverture à l'étranger. Donc il y a M. Gerstein qui vient de Jérusalem. Et il y a trois Italiens, Alessandro Kokoschinski, Giorgio Laveri et Sabina Ferrocci. Il y a Belkacem Boudjelloul qui est français, mais qui est d'origine kabyle. Et il y a Manresa, Monsieur Manresa, qui est espagnol, et Saint-Sylvestre, qui est portugais.
Alors justement, cette idée de flânerie, c'est une idée vraiment poétique, parce que c'est presque un mot désuet, flânerie, aujourd'hui, dans une période où tout va vite, où pour aller encore plus vite, on s'équipe de médias et d'ordinateurs. Et finalement, l'idée de flânerie amène à une lenteur, à prendre son temps pour découvrir l'art. Et d'où vous est venue cette idée de flânerie? Parce qu'on peut parler de balade, de...
Oui, parce que je trouvais que c'était un très joli mot. C'est un mot beaucoup plus poétique que balade ou... Voilà, je trouvais que flânerie, c'est quand même un très joli mot hein, de la langue française.
Oui.
Flâner, c'est... Voilà, ça chante, flânerie. C'est pas bon, alors on va faire une balade, viens, on va marcher. Non, c'est...
Et en ça, fait, ça induit le temps.
Oui, ça induit le temps et puis ça, c'est aussi très imagé, on flâne. Donc on prend le temps de faire les choses.
Ça invite à une vraie réceptivité en fait, sans pollution, qu'elle soit urbaine, sonore.
Absolument, donc je crois que c'est ça, il faut aussi réapprendre à notre époque le moment de flâner, de prendre son temps, de regarder, d'apprécier, d'écouter. Parce que chaque jardin, il y a un musicien. Et ils font des concerts, les pauvres chéris, ils sont géniaux. Ce sont des jeunes gens qui sont sortent du conservatoire d'Arius Meillau d'Aix-en-Provence, ils sont géniaux. Ils s'assiedent le samedi à 14h, ils finissent à 20h, ils recommencent le dimanche à 11h, finissent à 19h et généralement, les gens leur en demandent plus, toujours plus, encore plus et toujours plus. Et ils sont médusés de voir autant de monde et d'être autant appréciés.
Bah en fait, c'est une manifestation populaire, bien qu'elle soit culturelle, festive, mais à la base, c'est une grande manifestation d'art populaire.
Voilà, je crois que c'est ça la réussite, c'est que c'est pas du tout une manifestation snob. Il y a des gens qui ont la possibilité d'acheter des œuvres très chères, et puis il y a ceux qui peuvent pas, mais qui viennent apprécier, qui viennent regarder, qui viennent... apprendre peut-être, s'ouvrir l'esprit. Je veux dire, quand on voit une œuvre d'art, je suis sûre qu'il y a des enfants, ou même des plus âgés, qui tout d'un coup se disent « Ah, mais ça aussi !» Et tout d'un coup, ça leur ouvre un monde, ça leur ouvre un univers, ça leur ouvre des possibilités de comprendre d'autres choses. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, et qui est, bon, c'est vers ce quoi je tends, c'est-à-dire donner aux gens qui viennent flâner, aux flâneurs, du plaisir sous toutes les formes, la musique, l'œil et le goût. Et puis, cette année, il y a eu une cerise sur le gâteau. Il y a eu un très grand concours fait par latribudesartistes.com, qui est Canson, en fait, et qui a ouvert sur Internet un très grand concours de dessin et de peinture. 29 ou 30 tableaux ont été sélectionnés. Ils seront exposés à Aix-en-Provence. Les gens pourront donc admirer les œuvres de ces artistes, qui sont des artistes soit professionnels, soit amateurs. Et 5 prix seront remis le dimanche à 17h. Et donc, c'est des prix Canson et des prix Géants des Beaux-Arts. Voilà.
Oui, avec la tribu des artistes.
Avec la tribu des
comme
artistes,
comme jury. Voilà. Oui. Alors, ce projet est un projet multiforme, en fait. Est-ce que dès l'origine, vous avez commencé avec des danseurs, des acteurs? Comment ça s'est passé? Comment ça a évolué dans le temps?
Dès l'origine, il y avait des jardins, des peintres, des sculpteurs, bijoutiers, et un musicien par jardin, dès le départ. Je trouvais que la musique avait besoin d'être là tout de suite. Et puis maintenant, comme c'est la cinquième année, c'est un joli anniversaire. Je trouve que d'avoir résisté 5 ans, c'est déjà très très bien. Parce qu'il faut trouver l'argent, et croyez-moi, les mécènes ne sont pas faciles à trouver. Bien sûr, nous avons des subventions, mais les subventions ne couvrent absolument pas le prix de cette manifestation. Parce que c'est gratuit pour le public, mais c'est aussi gratuit pour les artistes. Alors au bout d'un moment, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc je cherche des mécènes, je mets à peu près 8-9 mois de ma vie à ça, au milieu de mes tournages, au milieu de mon travail, de mes voyages, d'apprendre des textes, de me lever tôt, de me coucher tard, de tourner la nuit, enfin bon. Et donc, voilà, c'est cette folie-là qui me plaît.
Et donc, pour choisir ces artistes, j'ai lu que vous alliez jusque dans leurs ateliers,
oui,
à leurs rencontres.
Oui, mais vous savez, je vais beaucoup à toutes les... Je vais
dans
à
leur
beaucoup
intimité.
Je vais beaucoup à Pompidou, je vais beaucoup à la FIAC, à Art Paris. Dès qu'on me signale un artiste, je vais voir. Il y en a qui se proposent d'eux-mêmes, il y en a qui correspondent à l'esprit, d'autres pas. Donc voilà, c'est une folie, mais une folie... je crois que c'est une folie d'amitié et d'amour pour l'art et pour les artistes, parce que je ne veux pas dire que ça part d'une grande générosité, ça part, oui, d'une folie et d'une amitié et d'un amour de l'art qui fait que je veux le faire partager aux autres.
C'est
voilà.
Ça, c'est le partage en fait.
Voilà,
vous avez eu envie de faire partager au public,
voilà, faire partager
vos rencontres,
les découvertes au public.
Parfait.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Fils et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Alors, à Aix, vous êtes également marraine de jeunes chanteurs.
Je suis marraine des petits chanteurs d'Aix-en-Provence qui sont connus dans le monde entier, qui sont drivés depuis des années. Ils fêtent leur 50e anniversaire cette année par Gérard Mouton. Et donc, ils sortent un CD magnifique de chants religieux et de duos avec Hugo Frey, Barbe Olivien. Et c'est un CD qui va être en vente et prochainement. Et je suis ravie parce que quand j'ai offert la statue de Cézanne à la ville d'Aix-en-Provence, j'avais fait écrire une chanson Monsieur Cézanne par Franck Thomas, qui a été chantée en public par les petits chanteurs d'Aix en direct avec Michel Thor. Donc voilà, disons que je les aime et que je trouve qu'ils portent une jolie parole d'Aix qui représente bien Aix-en-Provence. Vous savez, je suis aixoise. Hein. Mm-hmm. Et aixoise, je crois, jusqu'au bout le cœur, mais au bout des cheveux, des
L'esprit.
Ongles. Donc Aix, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est mes racines, c'est ma ville, c'est un endroit que j'aime tout particulièrement, où j'ai grandi, où j'ai vécu, où je suis née. Et voilà, donc...
Vous êtes imprégné par
oui,
c'est les vibrations.
C'est un endroit du monde que j'aime particulièrement.
Alors, on va quand même parler, en vous recevant, on ne pouvait pas éviter de parler quand même de votre carrière. Vous avez traversé le cinéma pendant près de 40 ans, comme je le disais. Et en fait, après avoir assisté à un tournage, il paraît, vous étiez très jeune sur le cours Mirabeau, Belmondo.
Ah oui, tourner un film de Chabrol, je crois que ça s'appelait À double tour.
À double tour, oui.
Voilà, et je l'ai vu, je suis sortie de l'école, je suis pas rentrée déjeuner, j'ai pris une gifle, j'ai demandé un autographe, ma maman était furieuse, bon. Et puis je me suis dit, ah c'est bien, et puis voilà, après, quand j'étais au Beaux-Arts... Non, c'est pas ça, c'est au Beaux-Arts, bêtement, une très jolie fille, qui habitait Marseille d'ailleurs, m'a dit un jour... Tu sais, il y a des cours d'art dramatique. Elle était absolument ravissante. Et moi, j'étais déjà la petite boulotte. Il y a des cours d'art dramatique à Aix, pourquoi on n'irait pas? Ah ben, je dis, banco, je t'accompagne. Elle est très vite partie. Et moi, j'y suis restée.
Et votre vocation
est... Et voilà, et c'est parti comme ça.
Alors, à 18 ans, l'art dramatique va prendre la première place dans votre vie. Ensuite, il y a l'apprentissage du café-théâtre, apparemment. Et c'est, bon, on va en parler quelques secondes, c'est vraiment le film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, qui va vous révéler au public. En fait, vous y tenez un rôle principal au milieu de quatre monstres sacrés du cinéma, puisque, excusez du peu, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli. Comment on tient le rôle par rapport à ces personnages? Étiez jeune en plus.
Jeune, j'avais 26 ans.
Oui. Hein,
j'étais pas si jeune que ça.
Ah,
mais enfin,
bah,
bon,
quand même.
J'étais une jeune débutante au cinéma, ça c'est sûr. Bah, j'ai eu un trac fou, quoi. Et puis ils m'ont mis, chacun à leur façon, m'a mis à l'aise. Et on est devenus, je dis pas copains parce que c'était pas ça, ils avaient tous leur femme, leur vie, mais on vivait en intelligence et en amitié sur le plateau, et c'était des gentlemen, donc je n'ai rien, ce que vous voyez parfois au cinéma, moi je ne le sentais même pas, et je m'en apercevais pas, c'est-à-dire une main qui peut très, très gentiment toucher mes fesses et tout ça, c'était des gens, voilà, qui sont tellement de gentlemen que tout ça ne se passe pas, quoi, c'est la magie du cinéma d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que, voilà, vous avez l'impression qu'on touche la personne et en fait, on ne la touche pas.
En fait, ce film, en 73, avait créé la polémique au Festival de Cannes, un grand scandale. Et ça revient un petit peu par rapport à votre définition de l'art contemporain. Est-ce que, pour vous, la provocation au cinéma, comme dans la peinture, amène au débat d'idées? Est-ce que ça agit comme une bombe à retardement qui fait parler, en fait, des choses, des œuvres, des gens?
Je pense qu'effectivement, il faut présenter des choses un peu osées. Quand je dis osées, ça ne veut pas dire vulgaire, mais des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Par exemple, il va y avoir de Tokyo Kamen les masques et une poupée un peu étrange. Donc personne n'a jamais vu les œuvres de Tokyo Kamen puisqu'il est japonais. Les tableaux de Zhang Peng, le chinois, les photos de Zhang Peng qui vont être exposées, je crois, va en interpeller plus d'un. Moi, je les ai vus, je suis restée bouche ouverte en me disant c'est extraordinaire et en même temps c'est terrible. Voilà. Je pense que les œuvres d'Antonio Saint-Sylvestre aussi vont interpeller beaucoup les jeunes. C'est-à-dire qu'on se rend compte pendant les flâneries, et là, vous avez raison, que quelque chose de classique, c'est peut-être les personnes plus âgées qui le regardent. Et les jeunes sont attirés par des choses plus étranges, très modernes, provocantes. Et là, ça leur correspond, c'est leur époque. Parce qu'en fait, ils sont dans leur époque. Et donc, c'est vrai que les personnes âgées, dès que c'est un petit peu... en sortie des sentiers battus, ça ne leur plaît pas parce que, enfin, ou ça les intéresse moins. parce qu'en fait, ça fait pas partie de ce qu'ils ont connu étant jeunes, de leur, en fait, de leur culture. Ça les dépasse maintenant, le côté contemporain, cette côté, cette, parfois cette force, cette violence, ces choses étranges, ça les dépasse, mais ça plaît beaucoup aux jeunes. Et cette année, je pense que la jeunesse, ils viennent, si les jeunes viennent, ils seront très contents de voir des choses pour eux.
Et vous, en fait, vous avez commencé par aimer les classiques, les grands peintres. Et comment vous y êtes venu à l'art contemporain? Quelle définition vous en avez?
Alors, je vais vous dire, je me baladais à Paris, avenue Matignon. C'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de galeries. Et tout d'un coup, il y avait une galerie avec des tableaux classiques. Je crois qu'il y avait des Degas, des tableaux magnifiques. Et puis à côté, tout d'un coup, il y a une galerie. Mais je vous parle d'il y a quelques années, hein, très moderne. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, oh, voilà de la fraîcheur. Tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on me dépoussiérait. Tout d'un coup, j'avais l'impression que ça me correspondait. Et je crois que c'est ça. Il y a des moments dans notre vie où on écoute certaines musiques, où on voit certains spectacles, où on ne les voit pas, et où on voit certaines œuvres où on ne les voit pas, où on ne peut plus les voir. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus bien. Ça veut dire que vous êtes, on est là, le monde tourne. Et nous, on tourne avec.
Il y a une fin.
On bouge.
Il y a une fin dans le
et
sens.
Et donc, c'est nous aussi qui, tout d'un coup, bougeons. Et tout d'un coup, peut-être qu'un tableau de Cézanne, c'est toujours magnifique. Mais je préférerais peut-être avoir un Picasso à côté. Plutôt qu'un... Vous voyez, c'est... Waouh ! Ou même un Balthus. Ou même peut-être un Hervé Di Rosa. C'est-à-dire que le monde bouge, on bouge avec. Et il faut... On se transforme, voilà. Et l'art est fait aussi pour nous interpeller et pour nous transformer.
Vous dites ça très bien. Vous dites, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre forme d'art qui finalement pose des questions, interroge, interpelle. Et j'ai été tout de suite attirée par cette forme d'art qui est l'art actuel.
Oui, parce qu'il ne faut pas être réfractaire.
On appelle.
Je veux dire, le reste est passé, mais si vous voulez, ces jeunes artistes, aujourd'hui, ils produisent et ils créent sur le passé, par rapport au passé. Je pense qu'ils se sont imprégnés du passé, ils l'ont digéré, et eux, avec leur talent, leur imagination et leur savoir-faire, crac, ils recréent autre chose. Et c'est ça qui est passionnant.
Andrea Ferréol, nous, on vous connaît en tant que comédienne pour le théâtre également, le cinéma, bien sûr, la télévision. Vous avez tourné dans plus de 100 films, reçu 2 Césars pour, dans le meilleur rôle, second rôle féminin. Tout d'abord pour Les Galettes de Pont-Aven et puis pour Le Dernier Métro. En fait, vous donnez l'impression d'avoir traversé le 7e art avec la même fougue pendant près de 40 ans, comme si les rôles que vous aviez choisis correspondaient à votre nature. Vous avez fait une sélection, justement, tant au théâtre qu'au cinéma, dans votre carrière?
Alors, j'ai fait des rôles magnifiques, parce qu'on me les proposait que j'ai choisi. Puis j'ai fait des rôles beaucoup moins bien, parce qu'il fallait payer les impôts. Et donc voilà. Mais ça, c'est pour tous les comédiens. Tous les comédiens vous le diront. C'est la vie. Voilà. Mais j'ai fait des rôles qui me correspondaient, même des rôles qui ne me correspondaient pas du tout. Comme dans le film de Fassbinder que je suis allée présenter récemment à Cannes, dernier festival, Disper, avec Dirk Bogarde. C'est un film où je... C'est le contraire de moi, d'ailleurs, quand j'ai revu le film, qui est absolument magnifique, qui va ressortir en salle en 2012. C'est une femme enfant, une femme petit oiseau, c'est le contraire de moi. Je suis une espèce de gros éléphant qui marche, qui a beaucoup de tempérament, et là c'est le contraire. D'ailleurs, quand je me suis vue, je me disais, mais comment j'ai joué ça? C'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai joué.
Et vous avez aimé jouer ce rôle?
Oui, bien sûr. Et là, ça m'a énormément étonnée, parce que aux antipodes de moi.
Alors, au théâtre, en tout cas, on vous a vu, entre autres, dans les fameux monologues du vagin, oui. Dave Ensler. En fait, c'est une pièce qui a été jouée par une foultitude d'actrices.
Ça fait 10 ans que ça se joue.
Oui, c'est venu de New York, je crois.
Ah oui, Eve Ensler est américaine, et c'est elle qui l'a créée, qui l'a écrite, d'après des interviews qu'elle avait faites à des femmes. En France, il y a plus de 80 comédiennes qui l'ont joué, qui continuent à le jouer en ce moment à Paris. Et je vais d'ailleurs faire la dernière semaine du mois de juillet au Festival d'Avignon, avec les monologues du vagin, du 25 au 31 juillet. Et c'est un spectacle magique. C'est un spectacle qui parle de la femme dans tout ce qui représente la femme, c'est-à-dire la joie de l'accouchement, le viol, l'excision, les problèmes de rapport avec des hommes, ceux qui aiment les fétichistes et tout. Mais ce n'est jamais vulgaire. C'est un spectacle grave, drôle, très amusant par moments, très tendre, très impressionnant. Quand on parle du viol, c'est même dérangeant. Nous sommes, nous, les trois comédiennes, parfois, nous pleurons en scène, parce que ce qu'on dit est terrible. Et c'est un spectacle où le public, je crois, est très heureux à la sortie. Il y a de plus en plus d'hommes, de plus en plus d'hommes qui sont intéressés par ce spectacle et qui l'aiment. Et donc, nous, c'est vraiment un spectacle absolument magnifique.
Et c'est un spectacle qui, apparemment, selon les acteurs, et les, enfin les actrices notamment, se transforme.
Bien sûr,
parce que chacune y amène son vécu, c'est ça, c'est...
Sa personnalité, sa façon de jouer, sa façon de parler. Il y en a, je peux vous dire, je ne vous dirai pas les noms, il y a une comédienne avec qui je l'ai fait qui ne pouvait pas dire un certain texte parce qu'elle avait été violée, elle, dans son enfance. Mmh. Donc par rapport à ça, c'était, voilà, elle ne pouvait pas. C'était d'autres qui se partageaient le texte. Donc voilà, c'est, chacun amène son vécu. Et puis, oui...
Vous parlez de partition, que chacune joue
une
partition différente,
c'est ça. Oui, c'est une partition parce qu'il y a la jeune femme, celle d'âge moyen et la femme plus âgée, et chacune ayant son expérience. Voilà, ses expériences et son expérience personnelle qu'elle met au service de ses textes.
Et vous prenez toujours autant de plaisir à jouer dans ce rôle.
Ah oui, c'est très amusant à faire. C'est très fatigant, c'est très très difficile à faire. C'est pas parce qu'on a le livre entre les mains qu'on peut se dire, lise, oui, on lit sans lire tout en sachant. Mais si vous ne portez pas ces textes, ils ne passent pas dans le public. Donc c'est vraiment un énorme effort, c'est un grand travail de comédienne, vraiment.
Alors à la télévision, on a été gâtés puisque récemment on a revu Au bon beurre. Et d'après ce que j'ai pu lire, il paraît que ça a été un record d'audience historique pour la chaîne France 5.
Oui, je suis ravie, parce que c'est un magnifique film.
Et puis c'est un film où vraiment tout le monde vous reconnaît dans ce film, c'est-à-dire vos expressions avec Roger Hanin.
J'espère que je ne suis pas comme ça, parce que c'est...
Non, mais vos expressions avec Roger Hanin, entre le drame et le sourire pour de connivence avec son mari, c'est extraordinaire.
Ouais, je crois que c'est un film important pour la France, je dirais même, et surtout pour les jeunes générations, car on parle toujours de la guerre. On parle de la guerre du côté des déportations, on parle de la guerre du côté du général de Gaulle, de la deuxième DB, mais on ne parle pas souvent de la guerre de ces Français qui sont restés sur place, qui étaient des BOF, qui étaient des commerçants, et qui volaient les autres, et qui s'enrichissaient sur le dos des autres. Et je crois que ce film est très intéressant sur ce plan-là.
En jouant le double jeu de ni résistant ni collabo.
Ben ils montent jusqu'au bout, c'est-à-dire ils sont plutôt pétinistes pendant parce que c'était bien. Ensuite ils se font amis avec un Allemand. Après ils le donnent au FFI et après De Gaulle arrive et met le drapeau français. C'est-à-dire ils sont absolument parfaits. Hein. Mais malheureusement je crois qu'il y a eu des Français comme ça pendant cette période-là douloureuse de la France. Et ça représente une tranche de la population.
Et c'est peut-être pas un hasard si ça a été programmé récemment à la télévision.
Oui, mais ça a été programmé souvent parce que c'est de 1980 le film. Et chaque fois qu'il passe, c'est un énorme succès.
Alors, théâtre, cinéma et bien sûr, les médias actuels, la télévision. Donc, je sais que vous avez signé pour rejouer dans une série télévisée de TF1 qui s'appelle Les Toqués et qui se situe dans la région.
Oui, qui se tourne ici, quoi, en fait.
On a à déjà, Cassis, c'est ça ?
On tourne dans les hauteurs de Cassis et maintenant à Méreuil, près d'Aix-en-Provence.
Et vous êtes Rose ?
Je suis Rose, qui n'a plus son bar à Cassis. Mais c'est une très jolie série. Là, le concept a un petit peu changé. C'est devenu Chambre d'hôte et je crois que ça s'appelle Chambre d'hôte à la grenouille ou quelque chose comme ça. Et donc, il y a toute une histoire de grenouille. Je suis très vexée parce que j'offre un cadeau avec des grenouilles dessus et que ça m'est refusé alors que j'ai 15% de participation dans...
La grenouille.
Dans la grenouille, voilà. Donc, si vous voulez, là, on va en refaire un nouveau épisode au mois de juillet et deux autres en septembre, octobre, novembre.
Et c'est une série qui marche très bien, je crois.
Écoutez, jusqu'à présent, ça a très très bien marché. Espérons, touchons du bois pour que ça continue. Et je vais faire un autre téléfilm, toujours dans la région PACA. Je ne sais pas où exactement, mais pour France Télévisions, là, plus TF1, FR3 exactement. Et là, je suis en train de le relire. En venant chez vous, je le relisais. Et c'est une comédie où deux femmes sont protagonistes. Une vient d'être veuve et l'autre tient un bistrot. Et elles vont décider de monter une équipe de majorettes.
De majorettes ?
Donc, vous voyez ce que ça implique. Il va falloir lever le genou et lever la jambe. Et donc, ça va se tourner où exactement, je ne sais pas, mais dans la région de Marseille, c'est sûr.
D'accord. Alors,
on recommence le 29 mai. Le 29 août, pardon.
Et au niveau du cinéma, vous avez des projets également ?
J'ai un vaguissime projet, mais je ne peux pas vous en parler, parce que comme ça fait, le cinéma me boude depuis quelques années. Donc là, ça a l'air de vouloir revenir. Je fais des courts-métrages en ce moment. Je suis très gentille avec de jeunes metteurs en scène. Et je fais des courts-métrages, et où j'apprends beaucoup d'ailleurs. C'est amusant parce que j'apprends. Et donc là, en venant chez vous, on m'a proposé un troisième court-métrage que je vais faire aussi. Voilà.
Donc vous aidez en fait la jeune
génération montante, voilà. Les stars peut-être, les grands metteurs en scène de demain. Voilà, espérons.
Alors, on va revenir sur Aix et les flâneries, parce que c'est quand même l'élément le plus important de notre entretien. En fait, pour réaliser un événement pareil, il y a quand même un travail de mise en scène énorme sur plusieurs lieux, avec des univers d'artistes différents, avec des animations lyriques, jazz, danse, etc. Vous êtes aidé par qui gère tout ça ?
Moi.
Oui, ça je m'en doutais, mais vous déléguez évidemment.
Pas du tout, parce que chaque fois que j'ai délégué, malheureusement, 15 jours après, c'était pas fait. Alors quand j'ai compris ça, moi au lieu de vous donner le téléphone que vous n'appelez pas, je prends mon téléphone, je fais le numéro et c'est fini, c'est réglé dans la seconde. Mais j'ai un attaché de presse formidable, j'ai une webmaster, j'ai un graphiste, j'ai un correcteur, mais si vous voulez... C'est moi, j'ai tout dans ma tête, quoi, en fait. Bon, j'ai le secrétaire de l'association qui demande les subventions, j'ai quand même des aides. Bon, mais c'est vrai que, si vous voulez, c'est moi qui cherche les mécènes, c'est moi qui cherche les artistes, c'est moi qui cherche les lieux. Et après, je me dis, cet artiste dans ce jardin-là, avec l'autre. Voilà.
Il y a des scénographes, il y a des gens qui vous aident au moins pour...
Pas du tout, c'est moi qui ai l'imagination assez fertile.
Pour chaque jardin.
Absolument, absolument.
Même pour ouvrir des portes d'autres jardins.
Ah ben ça, c'est simple. Vous savez, pour ouvrir les portes des jardins, je me balade dans Aix, je regarde s'il y a un arbre qui dépasse et je tape. Et je sonne et je demande gentiment s'ils veulent me montrer leur jardin. Généralement, ils disent oui, ils me le montrent. Et après, je discute. Et là, parfois, ça se gâte. Parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, à Aix, il y a des très vieilles familles aixoises et elles ne veulent pas qu'on les dérange, elles ne veulent pas qu'on vienne chez elles. Et j'ai vraiment, je vous le disais tout à l'heure, j'ai découvert des lieux sublimissimes que je n'aurais probablement jamais. C'est triste, c'est dommage.
Et les gens acceptent facilement de laisser leur jardin ouvert au public ?
Oui, quand ils ont vu, il y a déjà une dame l'an dernier qui ne voulait pas. Puis j'ai eu sa fille cette année et elle m'a dit « Maman était tellement contente que si vous voulez retourner chez elle l'an prochain, vous pouvez. » C'est-à-dire qu'ils voient que ça se passe bien. Il n'y a même pas un gobelet d'eau qui traîne dans le jardin.
Mais quand on gâte les gens, quand on leur fait plaisir, j'ai remarqué qu'il y a ce respect.
Voilà,
oui, effectivement.
Donc, et puis il y a la cheftaine que je suis qui passe de jardin en jardin et que si quelqu'un fait tomber un gobelet, je suis là pour lui demander, peut-être pas toujours assez gentiment, je le reconnais, de bien vouloir le ramasser. Voilà, parce qu'il faut respecter les lieux où nous sommes, qui nous sont prêtés, et nous sommes chez des gens qui gentiment et généreusement ouvrent leurs portes.
Et voilà. Alors, ils ouvrent leurs portes de façon bénévole, et les artistes collaborent de façon bénévole également.
Ah ben les artistes, ils sont ravis d'exposer, ils viennent, comme je vous l'ai dit, de beaucoup d'endroits. Il y a des artistes qui viennent de la Côte d'Azur, de Marseille, avec Christophe Faure, qui est un Marseillais, et puis il y en a qui viennent de Sète, il y a trois artistes qui viennent de Sète cette année. Donc ces artistes, ils sont absolument ravis, on ne leur demande rien. Si vous voulez, ils ne payent rien. Donc évidemment, ils viennent.
C'est une magnifique fenêtre qui est ouverte
sur leur art et sur leur façon de travailler. Et ils doivent être là pour expliquer. Et cette année, j'ai fait un partenariat avec Oxalis. Oxalis est une unité de soins pour des jeunes adolescents, d'Illy, en hôpital psychiatrique, et qui donc vont venir aux flâneries et vont visiter les flâneries, et qui eux aussi ont fait des dessins, ont fait un tableau, et ils auront le prix de l'EDF. Voilà. En dehors du prix Canson, il y a le prix EDF, fait pour ces jeunes et par ces jeunes adolescents malades.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, si on rêve, que ces flâneries s'étendent à toute la ville d'Aix un jour ?
Non,
qu'on ouvre tous les lieux un petit peu comme une journée du patrimoine local ou...
Non, parce qu'il faut trouver les jardins, il faut que les gens les prêtent. Non, moi mon rêve, parce que j'en ai un évidemment, ce serait que d'autres villes ailleurs, dans d'autres coins de France, me demandent d'organiser une flânerie dans leur ville. Voilà. Mais ça, je trouve que ce serait formidable. Mais voilà, ça dépend beaucoup des politiques aussi. Donc, attendons.
Oui, et puis, il faut peut-être travailler avec le ministère de la Culture à
ce niveau-là. Oui, mais vous savez, le ministère de la Culture, oui, bien sûr, mais il faut aussi travailler avec des villes. Donc, il faut aller voir des maires, il faut aller voir des... Voyons voir. Moi, cette année, j'ai eu une énorme année de travail. J'ai pas arrêté de travailler depuis le début de l'année. Et vous avez vu, j'ai encore 4 films à faire. Plus le théâtre, plus, je vais dire, des textes dans des musées. Donc, voyons voir. Mais si une autre ville me demande, là, je serai... Ça sera ma plus grande récompense. Voilà. Pour l'instant, ma récompense, c'est quoi ? C'est les gens qui viennent me voir pendant les jardins, quand je tourne comme eux, quand... Et me disent merci, c'est formidable, on se régale, c'est formidable. Oh, on a découvert des peintres, des sculpteurs, on a découvert... Merci. Ça, c'est ma récompense. Et qu'il y ait beaucoup de monde. Et il y en a, puisque je crois que maintenant, les flâneries commencent, et grâce à vous, les médias, commencent à être installés réellement. Mais ma plus grande récompense, ce serait de le faire aussi dans une autre ville.
Oui, exporter ce concept. Mais voilà. Bon, c'est vrai qu'Aix est en votre ville, donc c'était peut-être avec plus d'affection.
Plus facile. Et... Je connais très bien les coins et les recoins, donc voilà, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas ? Espérons.
Pour chaque édition, vous amenez une petite touche, une petite idée nouvelle qui concerne l'art, mais l'art sous une autre forme. Encore une fois, l'année dernière, je pense que c'était l'art culinaire.
Oui, et ça a eu un énorme succès. L'année d'avant, c'était le design, bon, qui fait partie de l'art, mais un petit peu à côté. Et cette année, alors j'ai trouvé deux idées. Deux, parce que c'est le 5e anniversaire. Un lustrier, c'est-à-dire c'est un monsieur qui crée des lustres modernes et qui répare tous les lustres de Versailles. Donc c'est vraiment un immense lustrier qui va exposer au patio des Oblats dans une salle voûtée. Je crois qu'il va y avoir une atmosphère extraordinaire. Et il va mettre 3 ou 4 lustres. Ça ne sera éclairé que par ces lustres-là et il y aura des tableaux autour. Je crois que ça va être un très beau moment et un très bel endroit. Et puis l'autre idée, c'est un nez. Un nez, je trouve que le parfum, c'est un art. Savoir mettre ensemble des odeurs et en créer un parfum, eh bien, c'est un tel art que cette année, il y a Pierre Guillaume qui vient du centre de la France et qui va nous expliquer comment il fait ses parfums pour hommes et pour femmes. Alors, et il a d'ailleurs un parfum qui s'appelle le 8e art.
Et oui, et en fait, ces artistes expliquent aux gens, enfin, font partager leur savoir, leur...
Ah oui, ben j'espère, c'est ce que je leur demande aussi. Parce que c'est aussi un petit peu le but. Si quelqu'un demande comment il travaille, il faut qu'il puisse expliquer. Voilà.
En fait, vous aimez mettre les gens en connexion.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et que ce qui est exposé profite aux autres et que ceux qui viennent flâner demandent. Par exemple, l'an dernier, Madame Marie-Laure Viebel a interpellé beaucoup de gens avec ses coco-fesses qu'elle a fait en bronze, qu'elle a fait en Murano. Donc voilà, c'est en ce moment, je crois qu'elle expose à Strasbourg d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est de l'art où tout d'un coup les gens se disent ah, mais on n'avait pas pensé à ça. Voilà, et c'est ça qui m'interpellait les gens, les forcer à réagir, les forcer à se poser des questions et les forcer à dire bon voilà, on découvre quelque chose.
C'est ça, la découverte plutôt par la sensation que par le côté intellectuel des choses, quoi. C'est dans ce sens-là que...
Les deux aussi.
Que vous aimez faire partager l'art.
Absolument.
Heaven, I'm in heaven, And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek.
Voilà, Evan avec Louis et Ella Fitzgerald. Alors, pour vous rappeler, chers auditeurs de Radio Grenouille, 7 jardins privés à Aix-en-Provence pour cette 5e édition où le visiteur sera accompagné de musique classique, jazz, où il pourra apprécier des œuvres d'art contemporain, et où il pourra rencontrer un lustrier, un parfumeur, un nez, où il pourra voir le Grand Ballet de Marseille. Et en fait, un paradis, en fait, Heaven.
Voilà.
Exactement comme cette chanson qui conclut.
Les 18 et 19 juin.
Les 18 et 19 juin, j'ai les horaires. Alors, samedi 18 juin de 14h à 20h, dimanche 19 juin de 11h à 19h, et la danse contemporaine à l'hôtel de l'Étang Parade. Vous pourrez apprécier le Ballet National de Marseille à 17, 18 et 19h. Quant au dimanche 19 juin, toujours dans la danse contemporaine, eh bien, c'est avec la compagnie Murray Broche, et le spectacle sera donné à 18h.
Et
dans
l'entrée
les jardins.
Est gratuite pour tout le monde.
Et l'entrée est gratuite pendant les 2 jours. C'est pas le paradis, ça?
Oui, absolument.
faut pas oublier que vous pouvez trouver tous les flyers de ces flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois à l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence.
Et de Marseille.
Et de Marseille, donc, certainement.
C'est tout le parcours et toutes les horaires de tous les événements.
Alors, courez-y.